RCF.
L'échappée belle en musique, Renaud Vol, Yves Jaffrès sur RCF.
Bonjour Yves.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, vous êtes venu avec une dame qui est assise juste à côté de moi. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ?
Bien, c'est Nicole Gros que j'ai rencontrée à Saint-Pons-de-Thomières. Elle m'a fait visiter l'orgue de Saint-Pons et j'ai été vraiment émerveillé. Tellement émerveillé que cela s'est fini par un repas et que nous avons joué beaucoup d'orgues et que depuis nous sommes restés en bonne relation.
Alors Saint-Pons-de-Thomières, est-ce que vous pouvez nous dire où ça se situe ?
Ben là, je laisse Nicole Gros en parler.
Qu'est-ce que vous faisiez à Saint-Pons-de-Thomières, Nicole Gros ?
Ah, à Saint-Pons-de-Thomières, je vais régulièrement depuis très longtemps passer des vacances. Et c'est un très bel endroit situé dans les hauts cantons de l'Hérault, quelque part entre Castres et Béziers. Une très belle région, et dans cette très belle région, il y a une ancienne cathédrale. Et dans cette ancienne cathédrale, tout habillée de marbre, c'est une région de marbre, il y a un orgue merveilleux, un orgue qui date de 1771, qui a été donc construit par Jean-Baptiste Micot.
Jean-Baptiste Micot, à qui nous allons consacrer cette émission, parce que vous lui avez vous-même consacré un ouvrage. Yves, vous l'avez à côté de vous, il y a une très belle couverture.
Oui, il s'appelle « Les Sieurs Micot, facteur d'orgue des Lumières ».
Alors nous allons parler de ce facteur d'orgue des Lumières dans quelques instants, mais nous allons débuter cette émission en musique avec un extrait du troisième livre de Louis Marchand, livre d'orgue bien évidemment.
Livre d'orgue de Marchand.
Il s'agit d'un grand dialogue.
Voilà.
Grand dialogue entre qui et qui, entre quoi et quoi.
Yves. Entre les claviers, entre les différentes sonorités de l'orgue.
François Espinasse sur l'orgue de Saint-Pons-de-Thomières, un enregistrement RCA Victor de 1997. Alors on entend cet orgue qui a été conçu, imaginé, construit par Louis Micot, Jean-Baptiste Micot bien évidemment. Une beauté visuelle mais également sonore, on a pu l'entendre ici.
Ah oui, j'ai eu le plaisir de jouer cet instrument, et quand on joue cet instrument, la musique française sonne avec une évidence tout à fait stupéfiante.
La musique française de quelle époque, Nicole Gros ?
Oh, le 17e, 18e, bon, pour tout dire, on y joue aussi parfois des musiques contemporaines qui peuvent passer fort bien.
Bon, Jean-Baptiste Micou, on va dire quand même qui il est, mais même oui. Si nous allons parler de lui tout au long de cette émission.
Oui, oui, oui. On a cru longtemps qu'il était soit parisien, soit toulousain. Il notait en effet qu'il était facteur de Paris. Et moi, je suis allée chercher un peu de plus près et je l'ai découvert lyonnais. Et il a passé une grande partie de sa vie, 40 ans, à Lyon, à travailler dans la soie pour l'essentiel.
Les Lyonnais l'ignoraient ?
Les Lyonnais
ça, vous avez l'air d'en parler comme d'une découverte personnelle.
Absolument, absolument.
Ah bon, c'est quand même étonnant, ça.
Oui, c'est ça qui m'a étonnée, c'est ça qui a fait le livre, c'est que cet orgue, c'est un orgue merveilleux, vous l'avez entendu, vous ne l'avez pas vu, mais vous devriez aller le voir. Et c'est un orgue vraiment merveilleux. Et tout le monde vient le voir, les experts sont en admiration devant, les organistes se régalent, vous avez entendu Jaffresse en parler. Le public est ravi aussi, on vient du monde entier le voir. Et on savait que c'était un ouvrage de Jean-Baptiste Micou parce qu'il est signé. Mais de Jean-Baptiste Micou, rien, on ne savait pas du tout qui il était. Donc ça valait la peine et voyez, j'ai trouvé de quoi écrire un livre entier et on pourrait peut-être en écrire un second si on voulait.
Ah, pourquoi pas, vous avez l'air passionné en tout cas, vous allez nous faire partager votre passion. Alors c'est un orgue qui est merveilleux, beau également parce qu'il a été extrêmement bien conservé.
Absolument, absolument. C'est un orgue qui a eu une belle histoire parce qu'il a eu la chance d'être construit dans une région très isolée, bien perdue, loin des modes. Et ce qui fait qu'il a été sauvé.
On n'a pas essayé de le faire sonner différemment.
Exactement. Et l'autre chose qui a été vraiment très importante, c'est que toujours la municipalité de Saint-Pons s'est occupée de cet orgue, en a pris soin. C'est un orgue de la ville. C'est pas un orgue tout seul dans son coin. C'est un orgue de la ville et de l'église, bien sûr. Mais c'est un orgue dont tout le monde prend soin. On aime cet orgue à Saint-Pons.
C'est un des membres de la famille, en quelque sorte.
Ah oui, complètement.
On va en écouter encore la sonorité maintenant.
Thank you.
un grand dialogue de Louis Marchand joué par François Espinasse sur l'orgue de Saint-Pons de Thomières, un orgue fabriqué, conçu par, et je ne vais pas me tromper de prénom, une fois de plus, Jean-Baptiste Micot. Alors l'histoire de Jean-Baptiste Micot, elle commence à Lyon, Nicole Gros.
Elle commence à Lyon en 1712, où il naît, là, dans la paroisse de Saint-Nizier, tout près d'un quartier où vivaient des facteurs d'instruments. Il y avait à Lyon une grande pratique de la facture d'instruments. Toutes sortes d'instruments, des viols, des luths, des clavecins. Parmi les facteurs que très probablement Jean-Baptiste Micot a rencontrés et admirés, parce que c'était son aîné, il y a Donzelag, le célèbre constructeur de clavecins. Je suis sûre qu'il l'a rencontré et admiré, c'est pas possible autrement, et il lui a sans doute pris l'idée du clavier étendu, un clavier plus grand que le clavier habituel. Donzelag l'avait inventé pour le clavecin, et Micot va le mettre en place dès ses premières grandes orgues. Il va lui aussi étendre le clavecin.
Ça sera quelques années après sa naissance,
plus
quand
tard,
même.
Voilà. Ouais.
Parce qu'il n'a pas directement commencé par la facture d'instruments. Il avait d'autres professions artisanales,
oui,
parallèlement.
Tout à fait. Il est venu à la facture parallèlement à une profession qu'il a occupée beaucoup. C'est à Lyon. La soie.
Bon, c'est assez classique finalement. On connaît davantage Lyon pour sa soie que pour sa facture d'instruments.
Voilà, voilà. Mais quand même. Non, à l'époque, la facture était lyonnaise était très connue. La facture et tout ce qui allait avec. Par exemple, on s'arrachait à Paris les boyaux qui venaient de Lyon. Puisque les boyaudiers.
Attention, s'arracher les boyaux, ça peut
oui, tout à fait.
Peut être mal compris.
les boyaudiers fabriquaient donc les cordes pour les instruments, et ceux qui de Lyon étaient recherchés, très recherchés. On s'arrachait les boyaux de Lyon.
Alors, il y avait un privilège aussi à Lyon qui permettait le développement de cette facture d'instruments.
Oui, c'était facilité effectivement parce qu'à l'époque, les règles étaient très dures. On n'imagine pas quoi. Hein. Il y avait une réglementation des métiers qui était assez impressionnante. Et Lyon avait eu le privilège, quelques siècles plus tôt, de réglementer comme ils l'entendaient ces métiers. Et ils avaient assoupli certaines règles. Par exemple, l'apprentissage pour un métier durait 12 ans dans le royaume. 12 ans d'apprentissage. À Lyon, on pouvait faire un apprentissage en 5 ans.
Et devenir professionnel au bout de 5 ans.
Et avoir absolument le droit d'établissement. Des choses comme ça, ça aide. Donc, il y avait effectivement beaucoup de métiers qui venaient sur Lyon pour s'implanter. Et les instruments, les facteurs d'instruments étaient effectivement nombreux et réputés.
Alors, ce qui a amené peut-être aussi certains compositeurs à passer, à s'arrêter à Lyon.
Oui, c'était une ville de musiciens déjà, oui, vous avez raison. Dans l'enfance de Micot, on a vu passer à Lyon Rousseau, on a vu passer à Lyon Rameau.
Tout à fait.
Avait déjà une certaine célébrité Marchand, Louis Marchand, Leclerc.
Dont on a écouté la musique il y a quelques instants.
Dont on vient d'écouter la musique, oui. Leclerc aussi, qui venait de Lyon. Il y avait une dynamique musicale sur la ville de Lyon, oui.
Bon, vous nous avez parlé de Rameau. Et vous avez donc choisi une musique pour nous, Yves, vous voulez nous la présenter ?
Eh bien oui, c'est une pièce en concert qui date de 1741, une pièce en concert. Le titre est curieux, c'est « Pièce de clavecin ». Donc c'est le clavecin
qui... Les titres de Rameau, c'est toujours quelque chose de particulier.
Tout à fait, oui. Mais c'est « Pièce de clavecin en concert », c'est-à-dire que c'est le clavecin qui mène la pièce, et vous avez deux instruments accompagnateurs, comme le violon ou la flûte. C'est assez libre d'ailleurs. Mais vous voyez, c'est tout à fait le contraire de la musique italienne, où il y a le violon et la basse continue. Ici, c'est le clavecin qui mène le jeu. Thank you.
La Peauplinière de Jean-Philippe Rameau, interprétée par la Symphonie du Marais, direction Hugo Rennes, un disque publié sur le label Musique à la Chaboterie. Nous continuons de parler de Jean-Baptiste Micot, facteur d'orgue au XVIIIe siècle, né à Lyon, et c'est là qu'il a appris son métier, Nicole Gros.
Oui, c'est là qu'il a appris et son métier de soyeux, puisqu'il est devenu soyeux. Il a eu une carrière... une évolution professionnelle très intéressante, puisque les premières pièces que j'ai trouvées, il faut dire qu'il a eu beaucoup d'enfants et qu'à Lyon, on a bien noté les métiers du papa à chaque naissance, ce qui m'a beaucoup facilité les recherches. Donc, au premier enfant, il est ouvrier et puis il devient vendeur de... Il est ouvrier dans la... Il fabrique des machines à tisser. Il n'est pas un tisseur, il est un fabricant de machines.
Donc il est déjà sur la construction. C'est vrai qu'on n'est pas très loin, hein, le métier à tisser, l'orgue, ça se ressemble.
Hein. Absolument, ouais. Absolument. C'est impressionnant quand on met les deux machines côte à côte. On voit qu'il a appris là des savoir-faire qui lui ont servi pour l'orgue après. Il a manipulé les outils qu'il manipulera plus tard. Il a utilisé les matériaux qu'il utilisera plus tard pour faire ses machines. Donc, il a appris l'orgue à travers la soie, c'est évident. Après, il est devenu vendeur de ses machines. Là, il a appris à tenir des comptes. Il a appris la facturation, les devis, toutes ces choses-là qui lui serviront aussi pour ses orgues. Ensuite, il est devenu dessinateur. Vous imaginez, un dessinateur, c'est parfait pour apprendre à dessiner un buffet d'orgue, pour les perspectives, pour les... Voilà, donc il continue à se former.
Vous donnez l'impression de quelqu'un de très moderne. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup du fait qu'il va falloir changer de métier régulièrement tout au long de sa vie. Lui, il le faisait déjà au XVIIIe siècle.
Absolument, tranquillement. Et apparemment, ça se passait fort bien, quoi. Il était réputé partout, ça marchait bien, son affaire. Et puis après, il devient marchand. Donc, quand il est marchand, là, il est vraiment dans... Il y avait une centaine de marchands fabricants sur Londres, les soyeux. Donc, c'est quand même une population importante. Enfin, c'est... Là, il fréquente, en fait, les gens qui lui achèteront ses orgues demain. Il fréquente le haut clergé, la haute bourgeoisie.
D'accord, c'est le même
noblesse,
type de clientèle.
C'est le même type de clientèle.
Mmh. Où a-t-il appris la facture d'orgue?
Alors, la facture d'orgue, par contre, c'est difficile parce que sur Lyon, des orgues, en principe, il n'y en avait pas, puisque dans les églises, on ne jouait pas d'orgue. Mais heureusement qu'il y avait des couvents où les règles étaient moins strictes et où on pouvait entendre des orgues. Donc, il a appris l'orgue. De mon point de vue, c'est difficile parce que je n'ai pas les traces écrites, mais il a eu l'occasion de suivre probablement la construction d'un orgue qui a eu lieu pendant sa jeunesse. Il avait une vingtaine d'années quand un facteur d'orgue qui s'appelle Ballet, qui n'est plus connu mais qui était de la région et connu ici, a construit l'orgue de l'hôpital de la Charité. Il a probablement suivi les opérations. Et puis ensuite, un autre facteur important connu est venu dans la région, c'est Christophe Moucherel, qui a construit de grandes orgues dans le sud-ouest. Il venait du nord, il allait vers le sud. Il s'est arrêté un temps dans la région pour construire deux
orgues.
Dans la région de Lyon.
Bien précisé, parce que nous avons des auditeurs d'un peu partout qui nous écoutent aujourd'hui.
Excusez-moi. Dans la région de Lyon. Et il a construit là deux orgues qu'il a probablement suivies aussi.
Qui sont et
à Toissé. Je ne saurais pas vous dire précisément où est Toissé, mais c'est pas très très loin d'ici.
Oh non, c'est pas loin de Lyon. Ouais.
Parce que là, je vois que vous nous parlez d'un orgue aux Jacobins, aux Célestins.
Alors, il a aussi travaillé à Lyon même sur un certain nombre d'orgues pour les entretenir ou pour les réparer. Et j'en ai repéré deux, celui du couvent des Célestins, un bel orgue qui a disparu.
Ah oui.
Tout comme les Célestins eux-mêmes. Donc tout ça a été.
C'est vrai qu'avant d'être un théâtre, les Célestins étaient un couvent.
Sur l'emplacement du couvent, on a construit un théâtre. Mmh. Mais tout ce qui était les Célestins, l'ancien couvent des Célestins, a disparu comme énormément de choses pendant la. Suite à la Révolution, et Lyon a perdu toutes ses orgues du XVIIIe siècle.
Puis on retrouve après des traces d'intervention à Aix, Marseille. On ne va malheureusement pas avoir le temps de rentrer dans le détail.
Par contre, aux Jacobins, il a travaillé. Et aux Jacobins, il a pu prendre la relève, parce qu'il jouait aussi, il a pu prendre la relève de Rameau, qui avait tenu l'orgue des Jacobins. Et lui-même, Mikko, a entretenu cet orgue des Jacobins un peu plus tard et l'a joué aussi. Il a apparemment tenu le poste.
Alors, écoutons maintenant le premier orgue, celui qui a ouvert cette émission, c'est-à-dire ce fameux orgue de Saint-Pons de Thomières. Il est joué ici par Michel Chapuis. Des improvisations sur l'orgue Mikko de Saint-Pons de Thomières. Alors Yves Jaffrès, pourquoi avez-vous choisi cette musique avec Nicole Gros cet après-midi ?
Eh bien parce que Michel Chapuis ici utilise des registrations qui sont préconisées par Dom Bédos.
Ah, c'est quoi des registrations ?
Eh bien c'est un choix d'instrument de timbre que l'on met avant de jouer un morceau. Il faut bien choisir sur quelle sonorité on va les jouer.
Alors pendant cette musique, je me suis retrouvé dans une autre dimension où ça parlait de voix humaine, de nazar, des mots qui me sont totalement inconnus. Des registrations.
Ce sont les registres de l'orgue, donc, et la registration consiste à les assembler pour préparer la façon de jouer.
On tire un peu sur des petits pistons, je sais pas comment on appelle ça.
On tire sur des jeux, ça s'appelle des jeux. Ouais. Pour les faire parler.
Avant de débuter.
De commencer une pièce.
D'accord. Donc là, c'était Michel Chapuis, un enregistrement de 1994 chez XCP.
L'échappée belle en musique, le rendez-vous de l'orgue.
Rendez-vous de l'orgue avec Jean-Baptiste Mikko, à qui Nicole Gros a consacré un ouvrage. Alors, il n'y a pas qu'un Mikko apparemment, puisque le titre du livre, c'est « Les sieurs Mikko ». On vous dira comment vous procurer ce livre un peu plus tard dans l'émission. Mais continuons à nous intéresser à ce facteur d'orgue, ou organier. Vous préférez ce terme, hein, Nicole Gros ?
Ah, organier, c'est un beau terme, mais facteur d'orgue dit aussi qu'on fait. Donc, c'est un beau terme aussi.
Alors, à Lyon, il y avait une forme d'organisation entre savants, chercheurs, artisans, une forme d'académie. Lui, il appartenait à cet ensemble.
Oui, il faut se remettre donc dans notre 18e siècle, le siècle des Lumières. On est en train de partout chercher, inventer, trouver dans tous les domaines, les mathématiques, la physique, la musique. La musique aussi traitée
comme une science.
Comme une science. Mmh. Et les savants se réunissaient effectivement dans des académies. Dans chaque grande ville, il y avait une académie où on échangeait ses savoirs, où on discutait, où on ferraillait sur des sujets très pointue et où on a fait avancer la science de cette façon. Quoi. C'est un des moteurs de l'avancement de nos connaissances.
Et on verra que Jean-Baptiste Micot, lui, a œuvré pour faire évoluer l'orgue, notamment.
Voilà. Ouais. Alors, lui, à cette époque-là, son côté homme des Lumières, c'est son côté mécanicien, inventeur, trouveur. En même temps qu'il travaille, on a vu, dans la soie, il s'intéresse énormément à la mécanique et il invente toutes sortes de petits instruments divers. Il a inventé, par exemple, un orgue absolument minuscule qui est caché à l'intérieur d'un oiseau. Un oiseau, c'est un automate, ouais. Un oiseau de la taille d'un oiseau, d'un serin, un tout petit oiseau, avec des tuyaux qui passent à travers les pattes, donc vous imaginez la largeur du tuyau, et ce petit oiseau qui est en fait un orgue minuscule est capable de chanter plusieurs airs.
Mais comment joue-t-on de cet
oiseau ?
Ah, on
ne joue pas, c'est une mécanique automatique.
D'accord, c'est vraiment une forme d'automate.
Voilà, ce sont des automates. Et à l'époque, on aimait énormément toutes ces petites choses.
On peut le voir, cet oiseau, quelque part ?
Non, on en a la description très précise. Je le cherche. Si quelqu'un connaît une cage avec un petit oiseau, il faut absolument...
Inviter Nicole Gros chez vous. Vous verrez, elle est de charmante compagnie. Même si vous voulez cacher cet oiseau, parce que vous vous doutez que c'est un trésor, allez-y, vous envoyez un mail à RCF et elle viendra à votre maison. André Campras, ça fait partie des personnes importantes pour parler de Jean-Baptiste Micot.
André Campras, c'est une personne qui était à l'époque fort jouée. Et là où vivait Jean-Baptiste Micot à l'époque, c'est-à-dire Lyon, il était fort prisé. Il a été joué plusieurs fois à l'Académie. Or, à l'Académie, parce que l'Académie était à la fois un lieu où on donnait des concerts et un lieu où se réunissaient les savants. Donc, Campras est venu, les œuvres de Campras ont été jouées sur le lieu où Jean-Baptiste Micot tenait ses réunions avec les autres académiciens.
Alors, peut-être le drame mythologique que nous allons écouter maintenant, c'est un extrait
oui.
de...
Oui, dites-moi. Oui, parce que ça commence de manière un petit peu terrible, ça commence par un orage. Alors, Didon et Aîné se retrouvent, ils vont dans un asile où, évidemment, ils vont devenir amoureux.
Si ce
Un exemple de la musique que l'on pouvait écouter au XVIIIe siècle, époque où vécut Jean-Baptiste Micot, dont nous parlons aujourd'hui. Là, c'était donc un extrait de Didon aîné par les Arts Florissants, direction William Christie, un enregistrement de 1986. Alors, nous avons vu que Jean-Baptiste Micot était très implanté dans sa ville d'origine, à Lyon. Mais alors, qu'est-ce qui a fait qu'il soit parti à un moment donné à Paris, Nicole Gros?
Figurez-vous qu'un jour, Jacques de Vaucanson, qui était envoyé par le roi pour s'occuper d'automatiser la soie, est venu à Lyon. Il était venu avec deux amis à lui, deux très grands musiciens, Guignon et Mondonville, des violonistes. Mondonville était aussi organiste. Tous trois viennent à Lyon, les deux musiciens pour un concert et Vaucanson pour travailler sur son automatisation de la soie. On était en 1745, à l'été 1745. L'atmosphère était tendue à Lyon parce qu'il y avait une réforme qui faisait en cours, qui faisait que les ouvriers étaient un peu dans la rue, pas trop contents. Et quand ils ont appris que venait en plus un réformateur qui allait automatiser leurs outils de travail...
Donc leur prendre éventuellement leur travail.
Et prendre le travail, ils n'ont pas été contents du tout. Il y a eu une émeute... Et le concert n'a pas pu être donné. Les deux musiciens étaient dans la rue à discuter avec les ouvriers. Et je pense que toute cette période-là, comme ça, d'agitation, était une période aussi où Micot devait être dans le circuit, puisque lui, il travaillait dans la soie, et il était peut-être avec les deux en train de discuter sur les équivalents barricades. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils se sont rencontrés, et que Vaucanson... Donc, un très grand savant, hein, vraiment très réputé, l'a introduit à admirer les machines qu'il fabriquait, en particulier ces petits orgues dont on n'a pas encore parlé, mais qui sont des merveilles, des petits orgues dits orgues en table. Une petite table qu'il suffit d'ouvrir pour, à l'intérieur, trouver un orgue délicat.
C'est une
joli.
Table sur laquelle on pouvait manger,
on
jouer.
On peut manger, on peut jouer, on peut s'activer à toutes sortes d'activités qu'on peut faire sur une table. Beaucoup le jeu, parce qu'on jouait beaucoup à l'époque. Et ces petites tables, on les ouvrait et on pouvait jouer une musique. C'était des instruments très délicats, des instruments destinés au beau monde, à la noblesse, à la haute bourgeoisie. Et il a beaucoup admiré ces œuvres-là, et il faisait d'autres instruments aussi. Il avait inventé un violon organisé, il avait inventé enfin, toutes sortes de choses. Il l'a emmené à l'Académie de Paris pour qu'il présente certains de ses instruments.
Donc, Vaucanson revient à Paris. Alors, avec Micot dans ses bagages.
Voilà. Et Guignon et Mondonville aussi, puisqu'eux étaient très placés, bien placés auprès du roi et de la reine. Ils travaillaient.
Qui était à l'époque
Louis XV, bien sûr, et Marie Leczinska, son épouse. Et donc, voilà notre Jean-Baptiste Micot happé vers Paris par tout ce beau monde.
Dans Mondonville, dont nous allons écouter maintenant une musique, Yves Jaffrès.
Oui, c'est une aria de la sonate pour violon et clavecin.
L'aria de la sonate pour violon et clavecin, mais je n'ai entendu ni violon ni clavecin, Yves Jaffrès.
Oui, parce qu'il s'agit d'une transcription qui a été faite par Jean-Paul Léco, maître de chapelle et organiste de la basilique de Lourdes, et s'est joué sur un orgue neuf, donc créé par Formentelli, mais tout à fait dans les, suivant la directive de Dom Bédos, dont nous venons.
Voilà, qui faisait autorité à l'époque de Jean-Baptiste Micot. Voilà, un enregistrement Quantum de 2012. Nous continuons à nous intéresser à Jean-Baptiste Micot et à son installation à Paris, Nicole Gros. Donc, embarqué par Mondonville, dont nous venons d'écouter la musique.
Voilà, il est embarqué et il s'installe à Paris. Donc, il a un atelier dans le Marais. Assez facilement, il avait des protections pour ça, c'est clair, parce qu'on ne pouvait pas s'installer comme ça en venant de l'étranger.
De l'étranger, Lyon, c'était l'étranger.
Eh oui, pour les Parisiens, l'étranger. Oui. On était étrangers à Paris. Mmh. D'où qu'on vienne de la province, si on n'avait pas fait sa formation à Paris, on était étranger et on n'avait pas le droit de s'installer dans la ville. On pouvait s'installer dans les faubourgs, mais pas dans la ville. Lui a eu une autorisation spéciale du roi de s'installer à l'intérieur, bien qu'il n'ait pas fait sa
peut-être grâce à Vaucanson, notamment.
Très probablement Vaucanson ou Mondonville ou Guignon, tous trois bien, bien placés en cour. Alors là, à Paris, il ne va pas faire de grandes orgues, parce que les grandes orgues à Paris, d'une part, il n'y en a plus beaucoup à faire, parce que le 17e a été très chargé en construction. Et puis, celles qui restent à faire, eh bien, elles sont prises en main par une grande famille de facteurs, les Cliquot. Et il n'y a pas de place pour d'autres facteurs d'orgue.
Donc il va faire des choses plus modestes.
Exactement, plus modestes, mais assez intelligentes, puisqu'il a réussi, pendant sa période parisienne, à fabriquer plus de 200 instruments, c'est quand même énorme, qu'il a fournis à l'ensemble des personnalités importantes de la cour, dit un texte. Et donc, la ville, Versailles comme Paris, s'arrache ces petits instruments, ces petits orgues en table.
Donc, grâce à la musique suivante, nous allons avoir une idée de la sonorité des instruments qu'il fabriquait à cette époque.
Voilà. À travers un orgue particulier, qui est un orgue un peu plus grand, un orgue de salon, qu'il a construit pour la reine. Donc, cet orgue-là, sur certains de ses jeux, on peut retrouver la sonorité qu'avaient ces petits orgues en table.
C'est une composition de Claude Bénigne Balbastre. Une aria lente sur l'orgue Micot de la Merville, jouée par Jean-Louis Vieille-Girardet.
L'échappée belle en musique, Renaud Vol, Yves Jaffrès sur RCF.
et Nicole Gros, qui est notre invitée aujourd'hui à l'occasion de la parution d'un livre qui s'appelle « Les sieurs Miko, facteurs d'orgue des Lumières ». Nous sommes au XVIIIe siècle. Miko vient de s'installer à Paris, puis il commence à être, comment dire, bien introduit dans le milieu musical parisien.
Absolument, absolument. Outre ses activités auprès de la reine à Versailles, il a des entrées au concert spirituel. Alors le concert spirituel, à l'époque, dépendait de l'académie, c'est-à-dire de l'académie de musique, c'est-à-dire de l'opéra.
Le concert spirituel, ça n'a pas grand-chose de spirituel, si, c'est l'organisation de concerts.
Ça a beaucoup de spirituel, parce que ça ne pouvait jouer, c'était un lieu où on donnait de la musique, et où on ne pouvait jouer que quand l'académie de musique, l'opéra, ne pouvait pas jouer, c'est-à-dire à l'occasion des grandes fêtes religieuses.
D'accord, c'était un complément des concerts de l'opéra.
Voilà, donc c'était, on peut dire un complément. Et à une époque, c'était très strict, c'est-à-dire que la musique qu'on devait jouer ne devait être que religieuse. Et à cette époque-là, on a changé la donne, on a ouvert un peu l'esprit, ce qui a donné à Pancras Royer, le directeur de ce concert spirituel, l'occasion de vraiment rénover complètement la musique. Et entre autres, il a décidé de construire un orgue pour le concert spirituel, un orgue très original parce que c'était le premier orgue laïque. Et
Jean-Baptiste... Il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui en France, des orgues laïques.
Il y en a quelques-uns, mais il y en a peu, c'est vrai. Mmh. Et là, c'était la première fois qu'on avait... C'était une innovation très importante. Et mon hypothèse très forte est que c'est Jean-Baptiste Miko qui a construit cet orgue, hélas disparu. Il était installé dans le palais des Tuileries, lui aussi disparu. Et il était, Jean-Baptiste Miko à l'époque, identifié comme facteur d'orgue de l'Académie. Donc, il est très probable que c'est lui qui avait construit cet orgue.
Alors là, nous allons laisser Paris pour aller dans le sud-ouest, hein, puisque c'est quand même là que Jean-Baptiste Miko a pu construire ses principaux orgues.
Voilà, il est parti s'installer dans le sud-ouest. Alors, une première installation, il n'y avait pas de place, je vous l'ai dit, à Paris pour plusieurs constructeurs d'orgues. Par contre, dans le sud-ouest, on développait beaucoup la construction des orgues. Il s'est installé d'abord du côté à Bayonne, dans le Pays Basque.
Saint-Jean-de-Luz.
Il a travaillé à la cathédrale de Bayonne et aussi à Saint-Jean-de-Luz, oui, où il a tenu l'orgue plusieurs années. Il était aussi organiste repéré, quoi, trois années. Et puis très vite, il a acheté un atelier à Toulouse. Et c'est là que les Miko vont être connus ensuite. Ils ont une base à Toulouse.
Avec les Miko, parce qu'on va parler de ses fils
voilà,
aussi.
Voilà. Donc il s'installe avec sa famille à Toulouse. Pour ceux qui connaissent l'orgue, c'est intéressant de savoir qu'il a acheté l'atelier de Lépine, qui était aussi un très grand facteur d'orgue.
Et puis, donc
Depuis cet atelier-là, ils ont construit une quinzaine d'orgues, c'est énorme, en une trentaine d'années. Il, c'est-à-dire le père Jean-Baptiste Miko, son fils aîné Pierre, et son fils cadet, deuxième Jean-Baptiste.
Alors, quel est l'orgue que nous allons écouter maintenant sous les doigts de Frédéric Mugnose ?
Nous revenons à notre bel orgue de Saint-Pont de Thomières.
Donc, plus sud-est, là.
Alors, on est... Oui,
on a mi-chemin.
Oui, mais ouais. À l'époque, ça se faisait vraiment... Enfin, c'était très large, quoi. Hein, il travaillait sur l'ensemble du Languedoc depuis l'Atlantique jusqu'à l'Hérault inclus.
Donc, c'est une musique de Narcisse Cazanove. Alors, quel est le titre ? Un passo ?
Oui, moi, je ne connais pas l'espagnol. Je ne saurais pas le prononcer comme il faut. Mais bon, un passo en ré mineur, en ré mineur. Que j'ai choisi parce que c'est une musique qui est rarement jouée, la musique espagnole, mais qui sonne vraiment bien. On a le sentiment que ces orgues Miko sont des orgues du Sud, des orgues méditerranéennes.
Thank you.
toujours ce bel orgue de Saint-Pons de Thomières, joué par Frédéric Munoz pour le label XCP en 1996. Un passo de Narcisse Casanova. Nous retrouvons maintenant Jean-Baptiste Micot, toujours dans le sud de la France, avec de grands ouvrages, de beaux instruments à fabriquer.
Oui, il a construit énormément à Toulouse, à Bordeaux, et puis dans les environs.
Il est remonté un peu vers le nord à un moment donné quand même.
Je pense que c'était sa notoriété qui l'a fait appeler dans le nord, parce qu'à Rouen, on est très loin de là, et il y avait des facteurs déjà, et il a été appelé pour reconstruire un orgue à Saint-Gaudard de Rouen.
Qu'est-ce qui reste concrètement comme orgue de Jean-Baptiste Micot en France ?
Concrètement, il reste trois orgues.
Ah oui, donc trois, c'est finalement orgues. Assez peu par rapport
c'est
à d'autres
peu,
facteurs.
C'est très peu. Oui. L'orgue de Saint-Pons, qu'on a bien entendu, l'orgue de Vabre, un orgue à Vabre-l'Abbaye, qui est juste un petit peu au-dessus de Saint-Pons, dans l'Aveyron. Et puis l'orgue de Saint-Chinian, qui est aussi dans l'Hérault.
D'accord, donc c'est trop.
L'orgue de la Merville, l'orgue de la Reine, est un probable orgue Micot. On n'a pas encore trouvé la signature, mais semble pouvoir lui être attribué. Et voilà, on a un
Rouen,
tout petit...
par exemple, il n'y en a plus trace.
Non, il n'en reste plus rien. C'est fou la disparition qu'il y a de ces orgues. Tous ces orgues qui ont été construits et disparus.
On peut se dire que peut-être à droite, à gauche, il y a quelques tuyaux, quelques...
Ah oui, quelques tuyaux. Jeux. Oui, tout à fait, il y a ça. Il y a quelques tuyaux à Toulouse, dans la cathédrale de Toulouse. Il y a quelques registres à Saint-Pierre-des-Chartres, à Toulouse. Et puis, il y a un orgue qu'il avait construit à La Réole et qui est en cours de reconstruction et où on entendra bientôt 22 ou une vingtaine de jeux de registration possibles de Micot.
Sinon, il reste aussi ces inventions, ces petits orgues portatifs, à la Cité de la Musique à Paris.
Oui, j'en ai trouvé un aussi à Toulouse. Et puis... les acheteurs commencent à s'intéresser à la question. On en voit réapparaître ici ou là. Et je ne désespère pas que dans quelques temps, on puisse véritablement restaurer un de ces petits instruments et les faire entendre.
Bon, formidable. Pour la fin de sa vie, Jean-Baptiste Micot revient sur les lieux de ses origines.
Oui, il revient sur Lyon. Il vend à nouveau ses petits instruments pendant quelque temps. Il ne peut plus travailler, il a une main paralysée. Et il meurt ici, oui, il meurt ici à Lyon. Il a laissé son atelier de Toulouse à son fils cadet. Son fils aîné est mort déjà depuis plusieurs années. Et c'est Jean-Baptiste Micot numéro 2 qui tient depuis déjà quelque temps l'atelier de Toulouse.
Nous allons écouter encore un peu de musique pour conclure cette émission.
Thank you.
une marche grand cœur pour les rentrées de procession sur l'orgue Mico de Saint-Pons de Thomières, jouée par Michel Chapuis, une composition de Jean-Jacques Beauvarlet-Charpentier. Alors Nicole Gros et Yves Jaffresse, pour conclure cette émission, quelques mots sur la descendance de Jean-Baptiste Mico. Ses fils ont suivi sa voie, il leur a légué un héritage considérable, un héritage, comment dire, organique.
Oui, oui, et des savoir-faire, parce que on a pu observer que les orgues fabriqués par Jean-Baptiste Mico fils étaient strictement ceux de son père. On ne sait pas reconnaître la patte du père et la patte du fils. Et heureusement qu'il y a des signatures, parce qu'on serait bien embarrassé. Il a vraiment été très bien formé par un très bon maître, probablement. Le Jean-Baptiste Mico fils, donc Pierre l'aîné est mort, Jean-Baptiste Mico fils a vécu à Toulouse tout le reste de sa vie, et il est connu là-bas parce que pendant la Révolution, on vient d'entendre une musique tout à fait de cette époque, pendant la Révolution, il a été l'expert auprès des nouvelles autorités pour tout ce qui concernait les orgues, donc il a un nom là-bas qui est connu.
Par tous les amateurs d'orgue.
Par tous les amateurs d'orgue, oui.
Bon, merci beaucoup, Nicole Gros, d'être venue nous parler de Jean-Baptiste Mico. Pour en savoir plus, on peut aller se plonger dans ce livre qui s'appelle « Les Sieurs Mico, facteurs d'orgue des Lumières ». C'est publié par l'association, c'est ça, qui s'occupe, qui conserve et fait vivre encore.
Absolument. Et ce livre est vendu au profit de cette association. Alors, uniquement d'ailleurs.
Vous pouvez aller sur son site, c'est orgue-saint-pons.org. Voilà, l'orgue de Saint-Pons de Thomières n'aura plus de secret pour vous grâce à ce livre et grâce à ce site internet. Merci à nouveau, merci Yves Jaffresse d'avoir participé à la réalisation et à la préparation de cette émission. Et à très bientôt, la musique continue dans quelques instants sur RCF.